Oh, c'est à Sekaïa que ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Bonjour, ici Juliane Perrault. Voici votre bulletin du vendredi 30 janvier 2026. En l'espace d'un mois, 5 féminicides présumés ont été recensés au Québec en 2026. Un chiffre alarmant qui témoigne d'une hausse marquée de la violence envers les femmes au cours des dernières années. Le regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale qui tenait hier une action éclair au coin de la rue Saint-Jean et de l'avenue Honoré-Mercier rappelle l'urgence de répondre aux besoins criants en matière de prévention, de protection et de soutien aux victimes. Un reportage que vous retrouverez sur notre site web ckiafm.org. Plusieurs organisations environnementales dénoncent leur mise à l'écart par le gouvernement de la commission parlementaire et demandent à être entendues sur le projet de loi numéro 5, qui vise à accélérer la réalisation des projets prioritaires et d'envergure nationale. Les organisations environnementales avaient déjà tiré la sonnette d'alarme le 8 décembre dernier en dénonçant la multiplication des mesures législatives du gouvernement du Québec qui affaiblissent les lois et les contre-pouvoirs, marginalisent la science et réduisent la participation citoyenne sous prétexte d'accélération économique. La Ligue des droits et libertés, section Québec, participera à une journée de grève régionale le 2 février dans le cadre de la Semaine de la défense collective des droits. Les organismes de défense collective des droits sont en campagne en vue du budget de mars 2026 afin de revendiquer un meilleur financement public de leur secteur d'activité. La Ligue des droits et libertés, section de Québec, rappelle que les organismes de défense collective des droits sont chroniquement sous-financés et s'appauvrissent d'année en année, leur financement n'étant pas indexé alors que la défense collective des droits est l'un des piliers essentiels de la démocratie et de l'État de droit. Le réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile accueille très favorablement plusieurs volets de la politique nationale de soutien à domicile présentée hier par la ministre de la Santé et responsable des services sociaux des aînés et des proches aidants, Mme Sonia Bélanger. Pour le réseau, cette politique marque un tournant décisif pour tout le Québec et réaffirme la place essentielle qu'occupent les entreprises d'économie sociale en aide à domicile dans l'écosystème du soutien à domicile. La première édition de la semaine du chocolat chaud débute aujourd'hui dans le Vieux-Limoilou. Cette semaine se veut un prélude au week-end festif Le Loup, le Lièvre et la Tortue qui aura lieu le 7 et le 8 février. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et ckiafm.org.
Toute simplicité. La plupart des hommes semblent n'avoir jamais réfléchi à ce qu'est une maison et passent effectivement, quoique inutilement, leur vie entière en état de pauvreté parce qu'ils croient devoir posséder une maison semblable à celle de leurs voisins. Devrons-nous sans cesse nous creuser la cervelle pour obtenir davantage de ces choses plutôt que de parfois nous satisfaire de moins. Le citoyen respectable devra-t-il ainsi enseigner fort sérieusement au jeune homme, par ses mots et son exemple, en quelle absolue nécessité il est de pouvoir posséder tel nombre minimal de galoches, de parapluies et de chambres d'amis vides pour accueillir des amis eux-mêmes vides avant de mourir. Pourquoi notre mobilier ne pourrait-il être aussi simple que celui des Arabes ou celui des Indiens? Nos maisons aujourd'hui sont encombrées et souillées par tous ces meubles, et une bonne maîtresse de maison en enverrait valser la plupart d'un coup de balai pour ne point laisser ses corvées matinales inachevées. Par les rougeurs d'aurore et la musique de même nom, mais quel genre de corvée matinale un homme doit-il faire en ce monde? J'avais 3 morceaux de calcaire sur mon bureau, mais je fus horrifié de constater qu'il nécessitait un époussetage quotidien. À un moment où le mobilier de mon esprit était lui-même encore plein de poussière et pris de dégoût, je les ai jetés par la fenêtre. Comment, dès lors, pourrais-je avoir une maison meublée? Je préférais m'asseoir au grand air, car nulle poussière ne s'accumule sur l'herbe, sauf aux endroits où l'homme a aménagé le sol.
Les anciens racontent qu'autrefois les Indiens avaient tenu là un powwow, sur la montagne dressée haut dans les cieux, d'une hauteur pareille à la profondeur de l'étang qui aujourd'hui s'enfonce loin dans la terre. La montagne trembla et soudain s'effondra. Seule une vieille squaw nommée Walden put survivre et c'est elle qui donna son nom à l'étang. Walden. Walden est un parfait miroir de la forêt. Rien d'aussi beau, d'aussi pur. Rien n'est aussi vaste qu'un lac à la surface de la terre. L'eau baigne la rive comme elle le faisait il y a 1000 ans. C'est l'œil de la terre où le promeneur, en y plongeant le sien, sonde la profondeur de sa propre nature. poids. Parce que je voulais vivre. Vivre suivant mûre réflexion. N'affronter que des actes essentiels de la vie. Et voir si je ne pourrais apprendre ce qu'elle avait enseigné. Afin de ne pas découvrir, à l'heure de ma mort, que je n'avais pas vécu. Je ne voulais pas non plus apprendre à me résigner. Ce qu'il me fallait, c'était vivre intensément. Je gagnais les bois parce que je voulais vivre profondément.
Bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur l'hiver. J'ai le livre de Monique Durand qui s'intitule « Nord ». Elle nous parle du Nord et de l'hiver. Alors, je vais vous lire des extraits de son livre. Et avant ça, j'ai ma revue de presse et mes lectures que j'ai faites cette semaine et mes annonces. En passant, je veux souligner que cette semaine, en fait, le mardi qui vient, le 2 février, ce sera la Chandeleur. La Chandeleur, c'est une fête que nos ancêtres fêtaient, qu'aujourd'hui, peu de gens de fête. En France, on fête la Chandeleur, on mange des crêpes. Parce que la Chandeleur, c'est la fête de la lumière, et la crêpe, ça rappelle le soleil. Et moi, je trouve que on devrait fêter la Chandeleur parce que c'est le retour de la lumière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le soleil est beaucoup plus fort, beaucoup plus chaud même. Et c'est sûr que on est loin de la fin de l'hiver, mais au niveau astronomique, la Chandeleur, c'est la fin de l'hiver astronomique. L'hiver astronomique commence au début novembre. Le milieu de l'hiver astronomique, c'est le solstice d'hiver, le 21 décembre. Et la fin de l'hiver astronomique, c'est autour du 2 février. Alors, vous pouvez remarquer que les journées rallongent. En tout cas, moi, je trouve que ça nous aide à passer à travers l'hiver, qui n'est pas toujours évident, en réalisant qu'au moins les journées rallongent et que l'hiver astronomique au début février est terminé. Même pour faire des sports d'hiver, là, les belles journées de février où on a du soleil, ça fait une grosse. C'est bien différent du mois de janvier. Ça fait une différence d'avoir ce soleil-là qui nous remonte le moral. Bon, alors, dans mes lectures que j'ai retenues, quelques textes portant sur l'environnement dans le chronique environnement du Devoir. Alors, il y avait dans le Devoir de mercredi 28 janvier, les baleines du Saint-Laurent changent de régime alimentaire. Au revoir, le krill, le poisson occupe désormais une plus grande place dans leur alimentation selon une nouvelle étude. Alors, encore une fois, les changements climatiques. Le krill n'aime pas l'eau chaude. Alors, il est en train de sortir du golfe Saint-Laurent. Les baleines doivent s'adapter. Espérons qu'ils vont réussir. Alors, on dit, les trois dernières décennies, les baleines du Saint-Laurent ont changé de régime selon une nouvelle étude québécoise. Certaines espèces de cétacés ingèrent davantage de poissons et le krill, qui écope du réchauffement des eaux, perd du terrain dans leur alimentation. Il s'agit de changements importants dans l'alimentation des baleines, contextualise Charlotte Tessier-Larivière, la première autrice de l'article scientifique paru dans Frontiers in Marine Science. L'étude qu'elle signe rend compte de ses travaux de maîtrise à l'Université du Québec à Rimouski. Ce relatif abandon du krill, surtout arctique, par les baleines, coïncide avec le déclin bien documenté du petit crustacé dans l'Atlantique Nord. Sa zone de distribution se compresse vers le nord. Tout porte à croire que le même phénomène est aussi à l'œuvre dans le Saint-Laurent. Il faut dire que le krill, un mot norvégien qui veut dire « nourriture de baleine », n'aime pas les eaux chaudes. Et de 2009 à 2022, les eaux profondes du golfe se sont réchauffées de 1,8 degrés Celsius, ce qui est encore plus rapide que dans le reste de l'océan. Compte tenu du changement climatique qui s'accentue, on peut imaginer que les baleines vont continuer de devoir s'adapter, adapter leur régime. Bien que ces animaux aient une certaine flexibilité dans leur choix de leur régime, la raréfaction du krill ne fera rien pour aider leur population à se rétablir. La baleine noire, qui, elle, se nourrit traditionnellement de copépodes dans le golfe du Maine, a fait face ces dernières années à un problème similaire. Pour suivre ses proies, elle vient désormais s'alimenter plus loin au nord, dans le golfe du Saint-Laurent. Ensuite, toujours dans le devoir d'aujourd'hui, des écologistes dénoncent la mise à l'écart des consultations sur le projet prioritaire avec le projet de loi Q5. Québec veut pouvoir outrepasser des lois environnementales. Plusieurs groupes environnementaux bien connu du Québec, déplore avoir été écarté de la commission parlementaire qui étudiera le projet de loi Q5 qui vise à garantir l'autorisation rapide des projets jugés prioritaires par Québec. Cette législation permettra au gouvernement de passer outre plusieurs lois censées protéger les milieux naturels, les parcs nationaux et les espèces menacées. En écartant des voies pertinentes et essentielles durant ces consultations, le gouvernement persiste et signe dans son mépris répété des processus démocratiques, dénonce une dizaine de groupes, dont Équiterre, Nature Québec, la Fondation David Suzuki, la Société pour la nature et les parcs du Québec, Vivre en ville, Au secours et la Fondation Rivière. Avec le projet de loi numéro 5, qui deviendra la loi visant à accélérer l'octroi des autorisations requises pour la réalisation de projets prioritaires et d'envergure nationale, le gouvernement caquiste se donnerait le pouvoir de garantir et d'accélérer l'autorisation de projets majeurs et potentiellement dommageables pour l'environnement. Le projet de loi lui accordera d'ailleurs beaucoup de pouvoir pour passer outre l'application de différentes lois, dont la totalité des dispositions de la loi sur les parcs. Un promoteur pourra aussi contrevenir avec l'assentiment du gouvernement aux dispositions qui interdiraient normalement la destruction d'habitats fauniques. Alors, c'est à suivre, c'est dénoncé par plusieurs groupes environnementaux. Il y a quand même un groupe environnemental, je crois, c'est-à-dire, selon l'horaire des consultations particulières, le gouvernement a prévu 2 journées pour entendre différentes organisations sur cette nouvelle législation. La liste comprend 14 groupes, dont une organisation environnementale, l'Association des biologistes du Québec et le Bureau d'audience publique sur l'environnement seront aussi entendus. C'est minoritaire là, dans l'étude qui sera, dans la consultation qui se fera à l'Assemblée nationale. Toujours dans le devoir de mardi, les caribous de Charlevoix sont-ils condamnés à disparaître? Le gouvernement caquiste a autorisé un projet éolien dans leur habitat faisant fi de l'avis des scientifiques. Le gouvernement caquiste a fait fi des conclusions de l'analyse environnementale censée guider sa décision en autorisant un projet éolien qui nuira aux chances de sauver les derniers caribous de Charlevoix de l'extinction. Le ministre de l'environnement défend la décision de Québec en insistant sur les retombées économiques du projet, qui est selon lui dans l'intérêt des générations futures. Par la voie d'un communiqué publié le 18 décembre, le gouvernement a donné le feu vert au méga-projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix. Alors, c'est contesté là, par les organisations environnementales. Par contre, les promoteurs, deux autres, défendent leur position. Dans une réponse écrite aux questions du devoir, Boralex affirme que le projet se situe sur un site qui est déjà hautement perturbé en raison d'activités forestières. Dans ce contexte, ce site est donc difficilement réhabilitable et n'est pas propice à la fréquentation du caribou. On ajoute que le projet a évolué au fil de l'évaluation environnementale. La configuration finale est le fruit d'un travail d'optimisation rigoureux mené sur plusieurs années qui a permis d'éviter entièrement les impacts sur l'habitat essentiel du caribou. Près de la moitié des éoliennes initialement prévues dans l'aire de répartition du caribou ont été retirées. Les zones d'habitation essentielles ont été complètement évitées. Alors, il y a un débat. Alors, si ça vous intéresse, c'était dans Le Devoir de mardi dernier. Toujours dans Le Devoir c'était dans Le Devoir de lundi. Reporter nos cibles climatiques envoie un mauvais message, déplore une experte. La décision de Québec risque de décourager les populations de s'engager davantage pour le climat. En reportant de 5 ans l'atteinte de la cible climatique inscrite jusqu'ici dans la loi sur la qualité de l'environnement, le gouvernement caquiste envoie un très mauvais message à la population, déplore Valériane Champagne-Saint-Arnaud, experte de la communication environnementale et membre du comité d'experts qui conseille Québec. Jusqu'à maintenant, le Québec avait prévu de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 37,5% d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990, disant vouloir adopter une approche équilibrée et responsable. Le ministre de l'Environnement a toutefois annoncé jeudi un recul sur cet engagement. La cible devra plutôt être atteinte en 2035 au lieu de 2030, en raison du contexte déjà marqué par l'incertitude économique et commerciale et par les tensions tarifaires, a déclaré le ministre de l'Environnement. Alors, c'est ça. C'était dans Le Devoir de lundi dernier. Dans les choses que j'ai retenues aussi, dans le Philosophy Magazine qui est en kiosque présentement, la thématique, c'est « Moi, moi et encore moi ». C'est une réflexion sur comment sortir de sa bulle, c'est une réflexion, on pourrait dire, sur l'identité. Et je vous lis un extrait que j'ai trouvé intéressant. C'est lié à la simplicité volontaire, je trouve. Le titre de l'article, c'est « La traversée du nombril ». Et on parle du philosophe Bertrand Russell. L'oubli de soi. Comment vais-je mener à bien cette opération, me jeter au dehors? Ce fut l'une des préoccupations majeures du philosophe britannique Bertrand Russell dans La conquête du bonheur. Alors, La conquête du bonheur, c'est le petit livret au centre de la revue. À chaque numéro de Philosophie Magazine, on a un court livret sur un philosophe avec une introduction. C'est tiré, on peut dire, de ce livre de Bertrand Russell qui s'intitule « La conquête du bonheur ». Il propose une méthode pour ne plus être malheureux et celle-ci est aux antipodes de la psychanalyse. Russell confie avoir souffert d'accès de dépression dans sa jeunesse. Il décelait l'angoisse, la fatigue d'être chez les gens qu'il rencontrait et faisait sienne cette sentence du poète William Blake « Dans chaque visage, je vois une cicatrice ». Les tendances négatives de Russell sont allées loin. Adolescent, j'ai haï la vie. J'étais continuellement sur le point de me suicider. Il a fini par aller mieux grâce à un remède magique. Il s'est entraîné à éprouver un intérêt décroissant pour sa propre personne. ne pas faire son introspection, ne pas se retourner sur son propre passé, ses traumatismes, ne pas prendre au tragique ses désirs de réussite, ne pas considérer que chaque projet qu'on porte est un enjeu vital. Peu à peu, j'ai appris à manifester de l'indifférence à l'égard de moi-même et de mes défauts. Je vins à concentrer mon attention de plus en plus sur les choses extérieures, l'état du monde, les diverses branches du savoir, les personnes pour lesquelles je ressentais de l'affection. Russell invite à s'engager dans des activités, qu'il s'agisse de bricolage, de minéralogie ou de mathématiques, grâce auxquelles on est concentré sur autre chose que soi. Dans des pages divertissantes, il explique que la préoccupation égocentrique se retrouve chez trois personnages, le pêcheur, le narcisse et le mégalomane. Le pécheur n'est pas celui qui commet des péchés, mais celui qui a tendance à se laisser ronger par la culpabilité. Il est dans le ressassement. Le narcisse, lui, a l'habitude de s'admirer et recherche l'admiration des autres. Enfin, le mégalomane, contrairement au narcisse, ne veut pas être aimé, mais craint. Ce qui l'intéresse au fond, c'est d'accroître sa puissance et sa domination. L'intérêt de cette distinction rapide est de rendre compte d'un paradoxe. On peut être égocentrique et pourtant se détester. Tel est le destin du pécheur par opposition au narcisse. Alors, effectivement, on a beaucoup tendance à se prendre au sérieux, autrement dit. Puis, ça fait partie de la simplicité volontaire de se délester de ces pressions qu'on se met, là, souvent inutiles, pas constructives. Alors, on prend une petite pause musicale, puis au retour, je vais vous parler du livre de Madame Monique Durand-Nord. Thank you. Alors, c'était un reel d'accordéon irlandais. C'est un accordéoniste que j'ai vu là, cet été au Festival d'accordéon à Montmagny. Le titre de son album, c'est... En fait, c'est son nom, The Ardmuid O Me Chair. Et le titre, Siúl Nal Sli. C'est en irlandais, évidemment. La pièce qu'on a entendue, c'est trois reels de Do Castle and the Beer Evan and Paddy Kelly. Alors, pour ceux qui s'intéressent, The Ardmuid, ça s'écrit D-I-A-R-M-U-I-D O, puis Meacher, M-E-A-C-H-A-I-R. Avant ça, on avait eu Richard Séguin, Retour à Walden, deux extraits de son album, Intro à Walden et Final in Deo. Alors, je vais vous lire des extraits du livre de Monique Durand. C'est très beau, c'est bien écrit. C'est une voyageuse une écrivaine qui voyage, qui est allée beaucoup dans des pays nordiques, mais pas seulement. Je vais vous lire ce qui est écrit sur la page de dessous de son livre. Il est des géographes qui moulent nos êtres et nous sont correspondances intimes et des routes courant dans certains pays qui ouvrent des routes en soi. C'est au nord que j'ai trouvé ma géographie profonde, celle qui m'entraîne dans une sorte d'état indéfinissable qui ressemble à la joie. Alors, ça aide, c'est un bon livre à lire en hiver. Elle essaie de nous faire apprécier la nordicité, qui est notre réalité, dans le fond, notre identité de nordique. De la mythique route 389 qui relie la côte nord du Québec à la mer du Labrador jusqu'à la Sibérie orientale en passant par les îles de l'Atlantique Nord et les alpages de la Haute-Savoie, Monique Durand, grande voyageuse, traque le nord comme on poursuit une idée. Le froid, le silence et la lumière sont ses compagnons de route. Mais son parcours est tout sauf solitaire et bien plus que des espèces désolées. Les nords de Monique Durand constituent le rude et sublime habitat des êtres qu'elle nous fait rencontrer. Et nous, des confins du Labrador et Yakout de Sibérie, trappeurs nord-côtiers et descendants de vikings des îles Féroé, sans oublier cet Estonien qui, avec ses frères de la forêt, nous entraîne sur les traces de la résistance à l'Union soviétique. Car c'est aussi l'histoire de tous ces territoires qu'elle fait vibrer et résonner dans une prose somptueusement vivante où souffle la poésie de la liberté. Je vais réessayer. Je l'ai rencontré pour une signature de son livre, séance de signature. J'ai essayé de l'inviter pour une entrevue, mais elle est en déplacement là, actuellement, elle est en voyage encore, puis elle avait où elle était, là, semblerait qu'elle n'avait pas d'accès de téléphone. Alors, j'ai dit, ben, quand elle reviendrait ou éventuellement, on pourra faire l'entrevue ensemble. Alors, je vais vous faire connaître Mme Durand par son livre, faute d'avoir Mme Durand en personne. Alors, je vous lis quelques extraits que j'ai trouvés très beaux. Attendez juste un instant. Alors, le Nord est un voyage. C'est un homme qui dort sur un banc de traversier faisant route de Matane, en Gaspésie, vers Godbout sur la côte nord, la tête appuyée sur son sac, contre son sac de travail. Foreur dynamiteur, il s'en va travailler dans la mine à Fermont. Le Nord est un kayak qui glisse sur l'onde claire dans la baie de Magpie. Un hydroglisseur pétaradant appelé par la Airboat qui vole au-dessus du Frasile pour franchir la rivière Saint-Augustin en Basse-Côte-Nord. Un petit avion d'air frousse qui lutte contre le blizzard et se pose juste sur une roue. Un gros camion à la carlingue de carnassier livreur de tomates et de laitue qui fait une entrée triomphale à Blanc-Sablon après avoir roulé 3000 km par tous les temps. Une motoneige qui file comme une comète sur la blancheur entre Shefferville et Kawashikama la veille de Noël, courant derrière les étoiles et la fée qui lui sourit. Le Nord est un continent liquide où l'on boit l'eau dans la main des courants, dans la coupe des ruisseaux, un ciel où la lumière défile comme les nuages. Il ouvre sur des déserts de neige, de mer et d'épinettes. Par exemple, le long littoral du golfe du Saint-Laurent, à l'est de Natashquan, où une quinzaine de villages s'égrènent, isolés du reste du globe, ou sur la vaste péninsule du Québec-Labrador, méconnue et surdimensionnée, qui recouvre les trois quarts du territoire québécois. Ces déserts-là, lieux limites, enveloppés de beauté et de silence, élargissent notre regard, nous comblent, parfois nous sauvent. Le Nord est aussi le lieu de notre ambivalence congénitale. Nous peinons même à nommer nos Nords. Nord du Québec, Nunavik, Nunavut, Côte-Nord, Basse-Côte-Nord, Labrador, Québec-Labrador, Pré-Nord, Moyen-Nord, Grand-Nord, Extrême-Nord, le fouillis, on s'y perd. Or, nommer une chose, un lieu, c'est lui donner une chair, l'extirper de l'immensité, de l'impensé. Nous n'en avons que pour le Sud. Avec le froid et l'hiver, le Nord est pourtant un puissant marqueur identitaire qui nous distingue à nos propres yeux et aux yeux du reste du monde. Le Nord est notre étendard à la fois revendiqué et refusé. Nous en portons la grandeur et le déni, l'orgueil et le désaveu. Voulons-nous l'habiter ou le fuir? Je vous ai parlé du film là, que j'ai vu. Je me souviens plus du titre. La marche vers le réel ou le voyage vers le réel de deux jeunes qui ont traversé le Québec du nord au sud. Et le film nous fait réaliser que essentiellement le Québec, c'est un immense désert nordique. Nous, on n'occupe seulement qu'une petite partie au sud. Et on le ressent dans son livre. Alors, on dit les pages qui suivent composent une somme très personnelle de ma relation avec les Nords du globe et tout particulièrement avec notre Nord québécois, une sorte de mosaïque boréale. J'ai visité la foisonnante matière en mots que l'on peut associer à la nordicité. Le froid et la lumière, les îles et les forêts, des ciels envoûtés où passent l'éclair des oiseaux et le vent des jours, une morphologie d'eau, de pierre et de sable telle qu'on la retrouve dans les hautes latitudes et singulièrement au Labrador. Le mot « Sibérie », certainement aussi associé de près au Nord, et le mot « silence » semble lui coller à la peau. Et puis le Nord s'est écrit sur tous les tons, dans les matins transparents ou les nuits d'encre. Dans mon chapitre « Écrire les mots du Nord », j'ai retenu quelques autrices et auteurs qui ont raconté de façon unique. Et le Nord continue de s'écrire. Une jeune génération d'écrivains et d'écrivaines notamment l'a pris à bras-le-corps. Elle nous parle d'ailleurs de Louis-Edmond Hamelin, c'est lui qui a inventé le terme de la nordicité. C'est lui qui nous a fait découvrir le Nord. Et il y a des extraits de M. Hamelin dans le livre d'ailleurs, je vais vous en lire probablement la semaine prochaine quelques extraits là, des travaux de M. Hamelin. Je suis entré dans la géographie boréale dans sans autre médiation que celle de mon regard et de mes carnets d'écriture. Barbouillé de sable, de neige et de mer, j'ai voyagé dans sa matière avec souvent le sentiment d'arpenter un très carré de sublime. Je l'ai habité et l'habite encore de tout mon être. Par un matin où, la tête à ma fenêtre, je n'ai conscience d'un lieu sans équivalent. J'ai souvent parlé à mes Nords, yeux dans les yeux, et ils me répondaient. J'espère en la parole des paysages, écrivait le poète martiniquain Édouard Glissant. En ces temps frappés de bombes et de mensonges et d'incertitudes, l'heure bleue du Nord nous aide à vivre, nous habillant de sa paix radicale, nous recouvrant de son grand parka de rivages enneigés et de goélands argentés. Me lasserai-je un jour d'écrire la blanche patience de la terre et les cargos gelés dans les baies du septentrion, de boire au givre des cormiers avec les oiseaux fous et sous de petits fruits, de m'émerveiller devant les forêts d'épinettes brassées par les vents comme fleurs des champs et devant les macareux moines voltigeant au-dessus des mers froides. S'épuise-t-on de beauté, dites-moi, les pages qui suivent ouvrent des pans de nord, d'ici et d'ailleurs, où repose la mémoire de la neige. C'était Ave Maria par Nathalie Choquette. Ave Maria de Bach et Gounod. Je vous lis encore un petit extrait avant de passer à, pour terminer l'émission. Je vais vous lire des extraits de Taureau Yogi des Bois. Je vous parlais de Louis-Edmond Hamelin. Là, alors, je vous lis l'extrait dont il est question de M. Hamelin. « Bien sûr, la modernité a rattrapé l'hiver et nos modes de vie. Nous nous sommes inventés des villes souterraines pour échapper au froid mordant des villes qui ne sont plus dépendantes des éléments. Plus besoin de mettre le nez dehors, métro, boulot, dodo, sous la terre gelée. Nous nous sommes inventés des villes-murs, comme à Fermont, dans le nord du Québec, où les trois quarts de la population vivent dans un immense édifice appelé le mur, dressé contre les vents et les blizzards du nord, où on peut vivre du matin jusqu'au soir sans aspirer une seule bouffée d'air glacial. manger, dormir, se récréer, courir, aller chez le coiffeur, au restaurant ou même à l'hôtel, abriter en logeant les infinis corridors de la lutte contre le froid. Nous avons même inventé un mot, il y a assez peu d'années, le mot « nordicité », dont la paternité revient à un géographe québécois, Louis-Edmond Hamelin. Il fallait accepter le Nord en nous, il fallait enfin se réconcilier avec l'idée que Jacques Cartier, plutôt que d'aboutir en Caroline du Sud, a eu l'idée saugrenue d'entrer en Amérique par la terre de Caïn, les icebergs, le fleuve Scorbut et les rivières Angelures. Le mot « nordicité » s'est répandu, il me semble, à peu près en même temps qu'un autre, américanité. Nous n'étions plus d'anciens Européens, mais des Américains, à ne pas confondre, bien sûr, avec États-Unis. Nous allions désormais assumer notre expérience continentale, notre destin de Nordique vivant en Amérique. Nous allions prendre l'hiver à bras de corps, vêtus de nos vêtements thermiques et autres canucks. Nous allions adopter nombreux motoneige, ski de fond, ski alpin, raquettes et autres sports de glisse. Terminer le cacher cette saison morte que je ne saurais voir. Bonjour l'hiver, enfin réhabilité. Alors, pour ceux qui s'intéressent, c'est Monique Durand. C'est son dernier livre qui est sorti là, cet automne, qui s'intitule Nord, N-O-R-D-S. Alors, pour terminer l'émission, il reste encore une dizaine de minutes, je vais vous lire des extraits du livre que j'aime beaucoup, « Le taureau yogi des bois » de Colette Poggi, P-O-G-G-I. Madame Poggi, c'est une experte en spiritualité ou en tradition de l'Inde. Et elle a fait un lien évident pour elle entre les écrits de taureau, son mode de vie et les sagesses orientales de l'Inde. Alors, je vous lis quelques extraits. Interconnexion dense de l'unité. Quelques années après l'expérience de Walden, le taureau humaniste et naturaliste n'hésite pas à transmettre son savoir et à partager ses convictions chaque fois qu'on le sollicite. En bon pédagogue, passionné par la faune et la flore, il met en avant l'expérience et l'observation devant la Société des agriculteurs, notamment, pour traiter de la gestion des parcelles de bois. C'est pour lui l'occasion d'évoquer le thème de l'interrelation au sein des phénomènes de la nature. De même, l'unité cosmique lui apparaît comme une évidence. Au fil de ses lectures indiennes, il découvre un écho frappant de ses idées dans le prakriti, l'énergie créatrice dans la philosophie Samkhya qui fournit le socle de la théorie du yoga. Grâce au principe spirituel appelé Purusha, cette puissance de la nature est comme infusée d'une intelligence qui orchestre les éléments fondamentaux et les combine pour tisser le réel. D'ailleurs, le terme intelligence, interligéré, renvoie à l'interrelation de tous les phénomènes et plus profondément au niveau des strates invisibles, atomes, cellules, qui forment l'unité composite du réel. Il faut dire que aussi Thoreau était probablement un des premiers nord-américains au 19e siècle à avoir lu les grands textes sacrés de l'Inde, grâce à, entre autres à son ami Emerson, qui était lui en lien avec les grands intellectuels en Europe, qui leur envoyait des livres qui venaient des traductions toutes récentes là, des grands textes indiens. On peut imaginer que les premiers penseurs, poètes, visionnaires qui élaborèrent une vision du monde et de l'homme vivaient en contact immédiat avec la nature, dans une intime familiarité avec les éléments, animés par une curiosité insatiable, et afin de garantir leur survie, ils n'avaient de cesse d'observer les phénomènes naturels, les mouvements de l'air et du vent, les pluies, les marées, les tracés des étoiles, de la lune, du soleil dans l'espace céleste. Un peu comme Thoreau, je voulais m'allier aux puissances qui règlent l'univers. philosophie dans les bois. Ils en retirèrent le sentiment d'une interconnexion dynamique, d'une danse des énergies reliant entre elles toutes choses visibles et invisibles. Ils virent en elles le fondement de l'harmonie cosmique. Jung exprime aussi, à sa manière, ce même sentiment d'union à la nature. Par moments, je suis comme répandu dans le paysage et dans les choses, et je vis moi-même dans chaque arbre, dans le capotis des vagues, dans les nuages, dans les animaux qui vont et viennent, et dans les objets. C'est un extrait de Ma vie de Carl Jung. L'harmonie Ritam, qui sera désignée ultérieurement par le terme Dharma, est la notion la plus importante du Veda que Thoreau découvrit grâce à Emerson. Ce terme sanskrit est l'ancêtre de différents mots français tels que rite, art, artisan, articulé, armoire, harmonie. Dans la perspective védique, le Ritam a fonction de mettre en relation, grâce à une dynamique articulatrice, des réalités diverses, corps et esprit, individus et univers, visibles et invisibles. Pour l'individu, il s'agit de jouer de manière appropriée son rôle, de s'articuler à l'harmonie universelle et de jouer sa partition. Dans l'avant-dernier chapitre de Walden, Printemps, le yogi des bois rend hommage à l'artisan des choses et considère l'innocence comme étant l'état naturel de connexion avec l'instant présent. Un tel état dessille les yeux et permet de voir l'autre sans projection mentale, en transparence, dans sa nature véritable. Bienheureux si nous vivions toujours dans le présent, si nous profitions de chacun des incidents qui nous arrivent comme l'herbe qui change sous l'influence de la plus légère rosée qu'elle reçoit. Notre innocence recouvrée nous fait discerner l'innocence de l'autrui. Indienne, c'était Inde, gloire et splendeur. C'est le titre de la pièce, c'est Dhyayan. Alors, un dernier extrait de Thoreau, Yogi des Bois. Interconnexion. Voir les choses autrement, mieux comprendre la réalité qui nous entoure, ce que nous sommes vraiment et l'interrelation entre les deux. Tels sont les défis de la science, mais aussi de l'expérience infiniment variée de l'art, de la littérature ou de la vie toute simple. Thoreau allie, comme un homme de son temps, ses multiples aspirations. son écriture renouvelle le regard que chacun peut porter sur la nature, révélant des aspects que seule une présence patiente sur le long terme peut offrir. L'originalité de ce penseur est toutefois d'apporter un regard métaphysique. Il élève notre vision, il prend du champ et parvient, par son empathie avec elle, à nous faire ressentir la nature comme un espace interconnecté où les éléments n'existent que par la participation à ce milieu commun. Peut-être n'y avons-nous jamais songé. Ce n'est pas tout. L'interconnexion existe également entre l'observateur et l'observé. Autrement dit, celui ou celle qui regarde le regard et la chose observée ne sont pas distincts, mais relèvent de la même réalité, comme le centre, le rayon et la circonférence appartiennent au même cercle. Il faudrait toutefois ajouter une nuance à cette analogie trop concrète, car ces divers éléments n'étant que vibrations, ils n'existent réellement que sous forme d'énergie. Alors, c'était des extraits de Taureau, Yogi des Bois par Colette Pogiste aux éditions Équateur. Alors, l'émission est terminée. Je vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Bonne journée. Bonne semaine et bonne chandeleur mardi prochain.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Salut, c'est François Laplace, boutique gourmande. Tu veux faire une différence dans le quartier? Ben nous, on embarque avec toi. Comment? Si tu achètes une carte cadeau de 20$, nous, on va la bonifier en ajoutant 5 cafés. Comme ça, tu peux l'offrir à quelqu'un de la rue et vraiment faire une différence, et ça, dans l'intimité. Passe nous voir au coin du pont Saint-Joseph, à deux pas de Sequoia. Voilà!
Et toi, tu cherches du rock de qualité et pas cher? Dirige-toi tout de suite vers l'entrepôt du rock, avec des morceaux de qualité comme... Cette offre est d'une durée limitée.
Juste une heure chaque semaine.
L'entrepôt du rock avec Yannick Plouffe. Une seule adresse pour vous servir. Vendredi 20h sur CKIA 88.3.
Bonjour, ici Juliane Perrault. Voici votre bulletin du vendredi 30 janvier 2026. En l'espace d'un mois, 5 féminicides présumés ont été recensés au Québec en 2026. Un chiffre alarmant qui témoigne d'une hausse marquée de la violence envers les femmes au cours des dernières années. Le regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale qui tenait hier une action éclair au coin de la rue Saint-Jean et de l'avenue Honoré-Mercier rappelle l'urgence de répondre aux besoins criants en matière de prévention, de protection et de soutien aux victimes. Un reportage que vous retrouverez sur notre site web ckiafm.org. Plusieurs organisations environnementales dénoncent leur mise à l'écart par le gouvernement de la commission parlementaire et demandent à être entendues sur le projet de loi numéro 5, qui vise à accélérer la réalisation des projets prioritaires et d'envergure nationale. Les organisations environnementales avaient déjà tiré la sonnette d'alarme le 8 décembre dernier en dénonçant la multiplication des mesures législatives du gouvernement.